Aujourd'hui, au podcast, on parle d'un film que j'ai grandement aimé. Un film d'un réalisateur qu'on pleure tous aujourd'hui, le grand Jean-Marc Vallée, ce réalisateur québécois, qui a fait ce film-là. Un film, en fait, qui a pris 25 jours à tourner, ce qui est quand même très court, mais qui a quand même un script qui a tourné à Hollywood pendant 20 ans, qui s'est fait refuser une centaine de fois pour finalement avoir été accepté par Jean-Marc Vallée. On parle de Dallas Buyers Club, sorti en 2013. Un film à petit budget, là. Surtout si on considère qu'il y a un Matthew McConaughey là-dedans. Il y a un Jared Leto. 5 millions de budget pour un box-office de 60 millions. Si on regarde avec les virgules, c'est un peu plus que 12 fois le budget pour box-office. C'est assez fou. Écoute, 7.9 sur 10 sur IMDb. Ce qui est très bon, qui est dans le top tiers. Puis on a 92% au Tomatometers. Et c'est semblablement la même chose pour le audience score sur Tomato, Rotten Tomato. Un film là, vraiment qui a clairement été aimé, mais pas que. Je pense qu'il y a certaines personnes qui étaient peut-être un peu plus poussées dans le sujet du film, des personnes qui ont plus vécu ces situations-là, qui ont quand même critiqué le film, mais en soi, par la communauté des cinéphiles, le film a été très apprécié, même qu'il y a 3 victoires aux Oscars sur 6 nominations. On parle de l'Oscar du meilleur acteur pour Mathieu, le score du meilleur acteur secondaire pour Jared Leto et le score du meilleur maquillage. Intéressant. C'est des genres de choses qu'on apprend au podcast. Donc aujourd'hui, on est avec Kevin Tremblay et je vous souhaite un excellent podcast. Good.
Salut Phil.
Salut. Merci d'être là.
Ben merci à toi. Deuxième fois que je suis ici, très content d'être là.
Yes, c'est un plaisir de te recevoir. Je pense qu'on va commencer.
Une petite crème de menthe.
Une crème de menthe.
Ben oui.
Regarde.
Hein, on dit jamais non à ça.
Grand
Noël sent bien.
Que nous sommes.
Ah, que c'est beau. Hey, ça là.
La couleur. Hein? Non, mais je trouve ça le fun. C'est pas trop lourd. Je trouve que pour critiquer un film, l'analyser,
ouais.
C'est une belle ambiance.
Santé mon Phil.
Santé.
Bon cinéphile.
Fait que c'est ça. Aujourd'hui un petit podcast, bonne ambiance.
Ouais.
Parler d'un film, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va y aller quand même assez straightforward.
Yes.
Je pense que on peut commencer par le fait que t'as-tu aimé le film?
J'ai adoré le film. J'ai adoré, mais c'est sûr qu'il y a des petites affaires que je me suis dit que par rapport à mon attention. T'sais, l'attention était portée où, t'sais, sur le film? Étais-tu portée sur la performance de Matthew McConaughey puis de Jared Leto ou était portée sur tout ce qui est sida, t'sais, tout ce qui est des années 80 là, où c'était un peu une polémique avec les labos, t'sais, c'était Reagan là, qui était au pouvoir aux États-Unis là, dans ces années-là. Puis c'était un peu t'sais, l'homosexualité et tout, c'était un peu encore mitigé, puis on voulait pas encore dépenser d'argent tant que ça pour
c'était
faire
très
des recherches.
C'était vraiment jugé, là. C'était comme...
Exact.
C'était terrible. Là.
Mais oui, si, pour répondre à ta question, j'ai adoré le film, évidemment. Moi, Jean-Marc Vallée, il est dans mon cœur pour toujours, même si... pour être honnête, tu sais, on en parlait quand il est décédé, ça va faire presque un an, là. Puis on avait l'impression que, tu sais, Jean-Marc Vallée, c'était quasiment un membre de nos familles, tu sais, tellement il racontait bien ses histoires, puis qu'il y avait beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup de pudeur dans sa manière de raconter. Puis j'ai l'impression que c'est un livre ouvert, Jean-Marc Vallée. Puis qu'il soit plus là aujourd'hui, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a perdu quelqu'un de grand. On a perdu un monument.
Je suis d'accord.
Une grande
perte. Jean-Marc Vallée qui est décédé cette année.
Ouais.
Noël passé, donc ça va bientôt faire un an.
Ouais.
Puis peut-être, avant de poursuivre en plus dans l'analyse du film. Juste un petit résumé du film pour ceux-là que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas vu ou qu'ils l'ont juste pas vu, à savoir qu'on va faire des spoilers pendant le podcast. Mais en gros, c'est l'histoire d'un gars qui vit au Texas, on pourrait dire un misogyne raciste homophobe, qui vit au Texas, c'est un rider de rodéo, il fait des rodéos, tout ça. Puis il apprend qu'il pogne le sida dans le contexte que tu dis des années 80 aux États-Unis.
Ouais.
Puis dans ce temps-là, c'est vraiment vu comme une maladie d'homosexuel.
Ouais.
Lui, il se dit, voyons, je suis pas. Puis dans le film, il dit des mots. Là, il se dit, je suis pas une faguette. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Il y croit pas. Finalement, bon, il l'a pour vrai. Fait qu'il est pris avec ça. Il finit par se soigner. Ben, il se fait soigner par le système médical. Finalement, c'est un peu de la marde. Parce que, bon, on est dans les années 80. Fait qu'il n'y a pas vraiment de solution par rapport à ça. finit par se soigner lui-même, allant même à l'encontre des lois. Mm. Finalement, il va ouvrir un club où ce qu'il va vendre ces médicaments-là qui sont comme supposés marcher ou pas supposés marcher, comme la pseudo-médecine. Fait que là, il ouvre un club pour vendre ces médicaments-là. Mm. Puis il vend ça, puis il y a plein de preneurs parce que présentement, il n'y a pas de solution vraiment meilleure que ça sur le marché.
Ouais.
Puis c'est ça, c'est l'histoire du Dallas Buyers Club, qui est une histoire vraie, romancée, mais vraie.
Ouais.
Fait que c'est ça pour le résumé du film.
Ouais.
Puis là, si on y va, t'sais, dans le podcast, on va parler, t'sais, Matthew McConaughey joue le rôle principal de Ron Woodruff. Après ça, il y a bon, Jared Leto qui joue une trans prostituée qui s'appelle Rayon. Et il y a Jennifer Garner qui joue Eve, une médecin qui est comme le pont vraiment de la médecine, puis Matthew McConaughey. Puis là, il y a d'autres personnages que je mets à l'écran présentement, là, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Mais en gros, ça va être ça, les noms qui vont venir un peu dans l'analyse.
Ouais, bon résumé. C'est un très bon résumé.
Non, mais c'est important parce que des fois, j'aurais écouté les podcasts qu'on faisait, puis là, je me disais... Parce que le concept du podcast, c'est vraiment le best. T'as écouté le film, puis tu sais, dans la semaine suivante, deux semaines après, tu écoutes le podcast, puis c'est là que tu vas avoir le plus de valeur.
T'sais. Ouais.
Mais je sais que c'est pas la réalité de tout le monde. Des fois, c'est le fun de retomber sur un podcast d'un film que tu as vu il y a longtemps.
Ouais.
Fait que là, on fait un petit résumé pour vous autres.
Puis le but aussi, c'est de vous donner le goût de l'écouter.
Ouais.
C'est surtout ça aussi.
Puis là, c'est le temps. Si tu l'as pas écouté, puis ça t'a donné le goût de l'écouter.
Ouais.
C'est honnêtement, c'est peut-être pas marketing ce que je veux dire, mais mets sur pause, puis va l'écouter, tu sais, fais autre chose, puis reviens nous voir parce que.
C'est vraiment un film qui vaut la peine d'être vu, là, parce que comme tu l'as dit dans ton prologue, c'est un film qui a été fait avec un petit budget, mais que j'ai l'impression, comme dans tous les films de Jean-Marc, il y a eu beaucoup d'amour, puis beaucoup de passion qui a entouré ce film-là.
100%.
Fait que, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de regarder ça.
Puis c'est quelque chose qu'on voit vraiment aussi dans comment que les acteurs. Où tous les gens qui sont de proche ou de loin avec la réalisation de ce projet-là parlent de Jean-Marc. Mm. Tu sais, Jean-Marc Vallée, dans son histoire, il a amené 4 acteurs à être nominés pour le meilleur acteur, tu sais.
Ouais.
Dont 2 victoires, dont, qu'on a dit, Jared Leto et Matthew McConaughey. Tu sais, pas beaucoup de films qu'il a fait, puis quand il a réussi à amener 4 acteurs à cette prestigieuse nomination-là, tu sais, ça montre à quel point ce gars-là, il est vraiment humain, puis c'est vraiment quelque chose qui ressort quand on entend parler de Jean-Marc. À quel point il sort le meilleur de chaque acteur, puis qui vraiment les pousse, puis il les comprend, puis il les met dans des situations où ils peuvent shiner, où ils peuvent vraiment performer.
Mm.
Puis tu vois qu'on dirait que tout est à travers ça.
Puis tu sais, je trouve que c'est intéressant aussi parce que les acteurs veulent travailler avec ce genre de réalisateur-là. Jean-Marc utilise beaucoup sa marque de commerce, c'est ce qui l'a fait connaître, c'est ses trames sonores, c'est sa musique. Puis il est comme tantôt, je l'ai dit, c'est un livre ouvert, Jean-Marc, il est prêt à travailler, tu sais, sur, exemple, Wild, Laura Dern, à un moment donné, est arrivée, puis elle n'était pas prête, elle n'était pas maquillée, mais elle voulait juste dire salut à Jean-Marc avant de tourner, tu sais. Puis Jean-Marc a fait, hey, j'ai un flash, 20 ans dans la forêt, puis on fait de l'improvisation, puis je te filme. Mais elle a fait, oh, let's do it, let's go, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas un homme qui est prétentieux dans sa manière de faire du cinéma. Il est humble, il est passionné, il est amoureux de son art. Puis ça, on le ressent, puis on le voit dans ses films. Puis avec Dallas Buyers Club, avec Matthew McConaughey, écoute, c'est sûr qu'on va en parler, mais je veux dire, sa transformation physique est assez incroyable. Puis tu sais, Matthew, quand il a vu le scénario, il a tout de suite sauté là-dessus parce qu'il était rendu à un moment de sa carrière aussi où ce qu'il était comme, bon, il était tanné de jouer les beaux gars, puis de jouer les belles
petites faces. Il y avait vraiment un casting... Qui répétait tout le temps. C'est comme du romantique, le beau gars.
C'est ça, les pubs de Lincoln.
Ça, c'est récent, mais il est retombé peut-être un peu là-dedans.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il était vraiment dans cette optique-là. Puis je me souviens plus exactement combien de temps ça faisait qu'il n'avait pas eu de job, pas eu de rôle, parce qu'il refusait les rôles. Parce qu'il se faisait toujours offrir ces mêmes rôles-là. Puis c'est lui qui disait ça, parce qu'il est très actif sur les réseaux. Mathieu, moi, j'aime beaucoup ça le suivre. Puis il disait ça à un moment donné. Il disait. Je me suis mis à maner, je veux faire autre chose. Puis il proposait des choses, il faisait toujours refuser parce que son casting, c'était le beau gosse.
Ouais.
Tu sais, qui est dans une comédie romantique assez classique. Des films qui faisaient de l'argent, puis que les gens voulaient en produire. Mais il a dit non, là, je refuse jusqu'à temps que j'aille de quoi d'autre, que je puisse performer à mon niveau. Puis son agent était comme, ça peut être long, là. Puis c'était quelques années, là, je veux pas dire des fausses informations, mais c'était quelques années certainement. Puis finalement, c'est avec Jean-Marc Vallée qui a travaillé.
Hey, c'est incroyable. C'est incroyable. Un homme d'ici en plus, tu sais. Puis il y a. Dans ce rôle-là, j'ai vraiment l'impression qu'il était au sommet de son art. En fait, j'ai vu un acteur au sommet de son art. Là. Puis quand vous allez le voir, vous allez comprendre aussi parce que on sent que cet acteur-là a travaillé avant, tu sais, a travaillé ses textes, puis a travaillé. Puis j'ai, je suis persuadé qu'il s'est pointé le bout du nez un peu dans tous les départements, que ça soit au montage, que ça soit à l'écriture, que ça soit. C'est sûr que Jean-Marc lui a laissé de la place parce qu'on le sent qu'il est imprégné de l'histoire, tu sais.
C'est lui, là, le film.
C'est ah,
lui,
c'est là. Touchant, là. Moi, j'ai eu l'arme à l'œil à plusieurs reprises, dont la scène où il arrête le char, puis tu sais, il fait juste enlever ses lunettes, puis. Puis tu sais, on sent toute la détresse, tu sais. Puis ce qui est beau en même temps, parce que on a donné, comme la vie a donné une maladie à un homme, comme tu le disais, qui est raciste, homophobe, puis qui envoie chier tout le monde, puis un redneck de Dallas, puis tu sais, comme, puis là, il y a le sida, tu sais. Moi, je trouve que c'est cette nuance-là qui est le plus beau dans ce film-là, tu sais.
C'est vrai, vraiment.
Parce qu'il est confronté, pas à la maladie, il est confronté par rapport à lui-même, tu sais.
C'est tellement vrai, là.
Ouais.
Lui-même, puis ça s'étend, je pense que oui, principalement lui-même, puis c'est beau. Dans le film, l'évolution de son caractère puis de ses opinions. Là,
ouais.
Vraiment. Mais il est aussi confronté, puis ça, c'est beaucoup quelque chose qui revient, je trouve, avec l'homophobie, tout ça, aux autres.
Mm.
Surtout quand on est dans les années 80.
Ouais.
Il perd ses amis là, du jour au lendemain. Là. Ses amis commencent à l'intimider là, par rapport à ça, puis il perd ses amis. Puis tu vois que ça l'atteint, mais il est comme fuck them. Là.
Ouais. Puis juste quand il s'en va dans le bar à un moment donné, puis ses amis l'attendent, puis il est comme hey, « donne-moi deux shots, donne-moi une bière », puis là, il arrive à la table, puis là, son comment, puis t'as une petite tapette, t'as une petite fifi, puis là…
Il veut pas boire avec lui.
Puis là, tu vois les hommes aussi à côté qui ont peur. Ils ont pas peur de Matthew, mais ils ont… Parce que, tu sais, Matthew, il est un cure-dent, là, tu sais, mais ils ont peur de la maladie, tu sais. Fait que, puis là, ils se reculent, puis là, Matthew, il fallait juste cracher dessus, puis là, ils sont comme « donnez-moi du savon, là, donnez-moi du… » Tu sais, c'est comme « on est là, là, on est là. »
Ignorant.
Ouais.
C'est souvent ça, c'est que ce soit le racisme, l'homophobie ou quoi que ce soit d'autre, c'est l'ignorance.
Ouais,
C'est la stupidité et l'ignorance.
Ah, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça que je trouve beau aussi avec ce que Jean-Marc a fait puis Matthew ensemble. C'est ils ont vraiment réussi à trouver l'humanité derrière un redneck.
Vraiment.
Parce qu'ils ont trouvé l'humain derrière ce gars-là qui est hyper toxique. Puis comme tu l'as dit, je trouve que ce qui est le plus beau dans cette histoire-là, c'est sa fulgurante ascension vers l'acceptation de sa maladie, tu sais, parce que Chris, il veut pas mourir, tu sais. Il veut pas mourir, fait qu'il s'en va au Mexique, il s'en va à Amsterdam, il s'en va au Vietnam, tu sais, il s'en va partout, genre, pour essayer de trouver un genre de remède à ça, mais s'il y en a pas, puis il se fait des perquisitions, puis il est comme, en tout cas.
Vraiment. Puis j'ai goût d'aller directement à ma scène préférée du film. Parce que je trouve que ça démontre bien justement son évolution de ce caractère-là. Puis c'est la scène dans l'épicerie où c'est comme peut-être milieu, fin de moitié de film.
Ouais.
Puis il recroise un de ses amis. Puis là, il le voit. Puis tu vois que ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Puis, là, tu vois que Matthew, lui, a beaucoup évolué. Tu sais, puis il est plus tant sur. Ça le fait plus chier que ses amis soient plus ses amis. Tu sais, puis il est juste comme, hey, salut, tu sais, comment ça va?
Non, ouais.
Mais tu vois que son ami, lui, est encore dans l'ignorance, encore dans la stupidité de sa peur, puis son homophobie. Puis là, il le regarde. Là, puis ce plan-là. Et vraiment, comme il n'y a pas beaucoup de montage dans ce plan-là. Il y a vraiment une qualité énorme de performance des acteurs. Puis là, les deux sont là, puis ils se parlent. Puis là, ils rencontrent Jared Leto, donc la trans. Puis il dit, il lui la présente. Puis là, il ne veut pas y serrer la main.
Ah oui, 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 oui.
Puis là, il refuse d'y serrer la main. Puis là, tu vois Matthew, il pogne par le cou. Puis c'est comme violent, là, c'est comme une agression. Il pogne par le cou, puis il force le gars, un autre homme, là, à serrer la main d'une trans. Puis là, il fait, man, puis ça l'écœure. Puis il s'en va.
C'est incroyable. Puis, tu sais, autant si on avait mis cette scène-là au début du film, ça n'aurait fait aucun sens parce que, tu sais, je veux dire, il aurait été dans l'autre équipe, probablement, c'est lui qui aurait fessé Jared, tu sais, dans le sens qu'il.
Absolument, tu sais. Mais là, il est rendu au point que. Puis même au début, sa relation avec Jared Leto, au début, tu sais, il est vraiment distant. Puis, tu vois, lui aussi, il faut qu'il apprenne des choses par rapport à ça. Mais je trouve que cette scène-là, c'est comme un point marqué de comme. Là, il la considère vraiment. Il dit, toi, tu mérites du respect. Puis, pas te faire serrer la main par lui. Tu mérites pas ça. Puis il l'impose à l'autre. T'sais.
Ouais.
Fait qu'il est vraiment dur. Puis après ça, le gars s'en va. Puis lui, il est dégoûté. Puis c'est probablement la pire journée de sa vie. Mais les deux sont comme. C'est normal. Lui, il est bien chill. Il continue à checker ses paquets de viande. Puis là, t'as Jared Leto. Rayon, là, qu'on peut l'appeler par son personnage. Rayon, qui est comme, tu vois, qu'elle est touchée par ce geste-là. Elle est comme.
Ouais.
Ok, tu me considères maintenant. On est égal.
Ouais.
Tu trouves que je mérite le respect. Puis tu me l'as même force donné, là, le respect là, que je méritais.
C'est ça.
J'ai trouvé cette scène-là vraiment.
C'est vrai que c'est comme un un point tournant dans le film où ce que là, on comprend que okay, là, ce personnage-là a changé, tu sais, est rendu ailleurs. Ouais. Mais ça, c'est parce que quand la porte, c'est là, tu sais, puis c'est comme aussi une belle réflexion aussi par rapport à la mort aussi, tu sais, dans le sens que t'as bien beau être qui tu veux, t'as bien beau avoir tout l'argent du monde ou bien être un itinérant. Si un itinérant puis un millionnaire à côté de toi, puis la mort frappe à ta porte, ben il se ramasse à la même place, tu sais. Il se ramasse sur la même ligne, puis c'est ça le film, tu sais. Ils sont comme, Chris, il y a un redneck, puis il y a une trans, puis les deux, tu sais, redneck, trans, ça va pas ensemble, là, ces deux mots-là, mais là, dans le film, ils ont fait à croire que ça se pouvait, tu sais, parce que la mort les attendait, tu sais, puis ils s'en venaient les chercher. Fait qu'il y a tellement d'humanité, là, c'est ça qui est magnifique, je trouve, là. Puis ça a été tourné en Nouvelle-Orléans, hein, savais-tu?
Ah ouais, non,
ouais,
je sais pas
ouais,
ça.
Ça...
OK, nice.
Ouais.
That's it.
C'est, mais c'est ça, c'est... Puis en plus, la performance des acteurs a tellement été incroyable que... Puis comme tu disais au début aussi, il y a tellement pas eu de budget pour faire ce film-là que... Toute l'équipe technique a comme pas eu le choix d'aller à côté la performance des acteurs parce qu'ils ouais. voyaient Matthew... Son corps, le corps à Matthew, là, il voulait mourir tellement il était maigre.
C'est 21 kilos qu'il a perdu.
21 kilos? Ouais.
Puis Jared Leto aussi a perdu des kilos, il a perdu 13. Ouais, c'est ça, 13,6 kilos puis 21
kilos. Il n'avait pas perdu plus que ça, Matthew?
Ben 21 kilos, ça fait quand même genre 50 livres. Là.
Ok, oui, ok, c'est... ok, oui, ok, excuse, ok,
c'est,
oui.
C'est pas mal.
Juste ça?
T'aurais pu en faire un peu
de
plus.
De côté, on le voyait plus, là.
Ça, c'était quoi son régime, là, mais genre, il mange... Ben, Jared Leto, son régime, c'était il buvait tout ce qu'il mangeait. Ouais. Puis Matthew, là, c'était sur 4 mois. Ce qu'il mangeait juste comme une petite portion de poisson.
Ouais.
Puis son déjeuner, je pense, c'était un peu de yogourt. Puis c'était comme chaque mois, je perds tant de kilos. Puis ça a été comme.
Jean-Marc Vallée, en entrevue, il disait que Matthew était rendu tellement maigre à un moment donné que il leur faisait porter des pantalons de filles.
Ah ouais.
des jeans de filles. Parce qu'il rentrait plus dans ses pantalons. Puis. Il est tellement allé intensivement dans son régime, Matthew, que le film n'était même pas commencé. Puis Jean-Marc était comme, hey, calme-toi, parce que quand le film commence, t'es pas encore, tu sais pas encore, t'as le sida, tu sais.
Ah ouais.
Fait qu'il faudrait juste comme faire attention. Puis il dit, non, il dit, ça va marcher. Puis rendu à 30 livres, Jean-Marc a dit, arrête, là, tu vas te tuer. Puis. Finalement, il s'est rendu à 50, comme tu dis. Fait que c'est comme à quel point il faut être comme toqué ou à quel point tu veux comme tasser ton image aussi d'acteur beau. Puis, en tout cas, c'est mission accomplie.
Ça, ça a fait un peu un coup de pub au film, par exemple. Parce qu'il y a une photo qui était sortie de Matthew à l'aéroport pendant qu'il était dans sa transformation, avant que le film sorte. Fait que là, le monde, dans le fond, les gros titres, c'était la photo, puis c'était comme... pas, c'est comme à quel point il a perdu du poids pour ce futur rôle.
Ouais.
Fait que ça rend comme un peu servi au film en termes de marketing. Mais eux, ils avaient peur. T'sais, Matthew, c'est dans une entrevue qui disait ça. Ce qu'il était content de ça, il a dit, je comprends que ça fasse cliquer les gens, que c'est quelque chose. Mais il dit, aussitôt que le film est sorti, ça a complètement disparu. Dans le sens que l'énergie du monde n'était plus focusée sur le fait que c'est donc impressionnant qu'il ait perdu 21 kilos et qu'il soit rendu maigre. Il était vraiment plus pensé sur le film parce que le film, c'est pas ça. T'sais, oui, c'est impressionnant. C'est pas comme, mettons, Le Machiniste avec Kristen Bell, qui a perdu énormément de poids aussi. On dirait que ce film-là, il a moins marqué un peu. Ben, c'est surtout ça, on dirait, le highlight du film. Mais Dallas Buyers Club, là, on en parle parce que oui, c'est impressionnant. Mais ça reste que le highlight du film, c'est l'histoire, c'est le personnage, c'est le sujet. Fait que ça, je trouve ça le fun. Ça montre à quel point le film est de qualité. T'sais.
Ouais, c'est vrai, ça. C'est
parce
vrai.
Que cet exploit-là qu'il a fait de perdre tous ces kilos-là pour le film, ça se démarque, mais comme. À travers le film, c'est ça qui fait que cette œuvre-là est vraiment bonne.
Ouais.
C'est juste un détail.
Ouais. Mais en même temps, je suis d'accord, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est tellement... Oui, c'est impressionnant, mais c'est un autre niveau. Puis tu sais, avant que ce film-là arrive, Matthew, il a tellement fait de films où il jouait les gardiens du désert, puis comme il était tout le temps avec ses beaux cheveux frisés en arrière, une belle gueule, puis à jouer les beaux gosses, mais là, on voyait, tu sais, on voyait le personnage, puis on pouvait pas penser à Matthew. Tu sais, on était comme, ça prenait beaucoup de place dans le film, ça, par contre. Des fois, j'étais comme...
C'est ça que tu disais au début, dans le
fond. Ouais, mais c'est juste que c'est parce que j'ai vraiment ressenti que, oh my God, il a voulu faire une transformation, tu sais. Mais il me l'a fait croire, puis j'y ai cru à 100%. Mais moi, je peux pas m'empêcher de pas penser à Matthew derrière ça. Okay.
Tu vois l'intention.
J'ai tout de suite, quand j'ai vu le film, j'ai fait « Ah, ce gars-là, il voulait changer d'image, tout simplement. Okay. Il voulait faire voir une autre. » Mais en même temps, c'est magnifique, tu sais. Puis il l'a fait à 100%, tu sais.
Ah, il a réussi.
Puis il a été bien entouré avec Jean-Marc pour faire ça. Mais c'est ça, des fois, j'étais comme « Aïe, c'est pas ça, ça leur aurait eu la même répercussion s'il avait pas été autant maigre, tu sais. Ouais. »
Non, c'est sûr, ouais, c'est clair. Oui, ça faisait partie du succès du film, c'est sûr.
Ouais, ouais. Mais tu sais ça, mais la relation aussi, tu sais, comme... Je sais pas si on voulait en parler aussi, mais de la relation avec la médecin, là.
Ouais.
Est-ce que son nom...
Elle s'appelle Eve dans le film.
Eve, ah oui, c'est ça, Eve.
Qui est jouée par Jennifer Garner.
Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est entre elle et Ron, c'est fou, là, à quel point c'est beau aussi, tu sais, ouais. Comme... Tu sais, il y a le fameux médecin où ce que il veut tout le temps comme il donner le même médicament qui est de l'AZT, je pense.
AZT,
ouais. Puis tu sais, il est comme, je sais pas, elle veut bouger les choses aussi, comme Ron, il veut bouger les choses, ouais. Mais elle est tiraillée aussi avec son métier et tout. Mais
la science, là.
La science,
là,
c'est
lui,
ça.
Il remet en cause ça, là, t'sais.
Ouais. Mais c'est ça, je trouve ça beau, cette relation-là, ouais. Aussi, qu'ils partagent. Parce qu'encore une fois, tu sais, c'est un redneck qui est confronté à le système hospitalier, qui est pas d'accord, qui envoie chier tout le monde. Mais elle voit, encore une fois, l'humain derrière ça, tu sais. Je trouve ça beau, je trouve ça beau. Puis c'est pas tout le monde qui le voyait... En tout cas, ouais.
Mais c'est vrai, puis c'est vrai que celle-là, je pense pourquoi leur relation est là, tu sais, dans le film, c'est vraiment le côté humain, tu sais.
Ouais.
Elle, c'est la médecin, c'est la scientifique, mais elle a vraiment ce côté humain-là fort, tu sais, d'empathie, puis c'est pour ça qu'elle joue un rôle avec Jared, parce qu'elle est proche aussi de Rayon, joué par Jared, mais elle devient proche de Matthew, puis t'as l'autre médecin, justement, son boss, que lui est vraiment plus scientifique. Il n'y a pas ce côté-là. Puis, honnêtement, lui, il fait les bonnes choses aussi. Là, les médecins là-dedans, il fait la bonne chose. Je veux dire, il y a des processus, puis il faut prouver les médicaments, c'est normal.
Mais il est quand même comme ils sont quand même vus comme les méchants.
Ouais.
À vous, tu sais, que les fameuses conférences dans le film où ce que tout le monde qui sont atteints du sida sont assis, puis comme les drapeaux américains qui sont au fond, puis avec les messieurs qui sont comme, ben, on essaie de trouver des médicaments, on essaie de... Mais tu sais, c'est sans fondement, c'est sans comme... Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on sont vraiment... sont montrés comme étant les méchants, ce qui est pas nécessairement vrai, parce que l'attention n'est pas mise là non plus.
Puis justement, comme je disais au début du podcast, que ça a été un peu critiqué par rapport à ça.
Ouais.
Jean-Marc Vallée, juste avant le tournage, peut-être quelques mois avant le tournage, il y avait une personne qui a vécu un peu ce climat-là, ces affaires-là, tout ça, qui était pas Ron Woodford, là, mais c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable et tout. Puis il a offert, il a dit, tu pourrais jouer un rôle de figurant et tout. Puis là, le gars était super enthousiaste. Il lit le script. Puis il était comme, c'est affreux, là, votre script, là, parce que c'était rempli de théories du complot. Puis tu sais, ça sent un peu dans le film. C'était vraiment, dans le fond, la personne qui a écrit le script était, dans le fond, un peu complotiste, puis attirée là-dessus. Puis il y avait plein de faussetés, puis justement, comment que les médecins s'étaient vus comme les méchants et tout ça. Puis lui, il a critiqué plein d'affaires. Puis juste quelques mois avant que le film se tourne, Jean-Marc Vallée a apporté énormément de modifications au film par rapport à ça.
Ah ouais,
parce que là, il s'est rendu compte que. C'est vrai que notre film est teinté, là. Il est vraiment biaisé, puis il y a présence de théories du complot et tout ça, puis de mauvaises informations, puis il a corrigé beaucoup. Puis là, le film est ce qu'il est aujourd'hui. Puis on voit un peu, là, tu sais, qu'en soi, si on regarde les faits, parce que c'est une histoire vraie, les médecins ont fait de la bonne chose. Présentement, le EDZT fait partie de la médecine qui sauve les gens en plus petite dose qu'il avait. Puis ça a été prouvé, puis c'est ça que j'ai lu tantôt, ça a été prouvé que, dans le fond, ce que Ron faisait, dans le fond, c'était tout de la merde, puis il n'y a aucun de ces médicaments-là aujourd'hui qui sont utilisés ou quoi que ce soit, tu sais. Puis dans le fond, la majorité des effets qu'il y avait, ils jugent que c'était des affaires de placebo, puis des petites affaires, mais ça faisait plus le nuire qu'autre chose, tu sais. Mais là, dans le film, tu sais, c'est vraiment pas montré comme ça, tu sais, mais si on regarde les faits,
C'est plus mais ça. Mais en même temps, le film, on est dans le regard de Ron, tu sais, on est dans son regard à lui, puis c'est ça le film aussi, tu sais. Je pense que si on avait voulu... Mais c'est pour ça, ça revient à ce que je disais, C'est pour ça que je trouve que mon attention est un peu éparpillée, tu sais, parce que on va pas, on parle du sida, tu sais, mais c'est pas, l'attention est pas portée sur le problème du sida dans les années 80, c'est porté sur la performance de Mathieu puis un redneck de Dallas. Tu sais, c'est ça que puis après vrai. Ça on voit en fait le creux du film, c'est on voit la transformation mentale d'un homme redneck puis homophobe qui devient comme qui accepte puis qu'il y a une file d'attente devant son hôtel d'homosexuel. Tu sais, comme, ça devient... oui, il vend des médicaments, mais moi, j'aurais peut-être aimé ça, peut-être, juste en savoir plus sur... Parce que, tu sais, des fois, les deux médecins, des fois, ils en parlaient qu'il y avait des petits problèmes de légalisation pour certains médicaments, pour le sida. Puis, tu sais, comme... Mais c'était tout le temps, on effleurait un petit peu, mais... J'ai l'impression que l'attention n'était pas là-dessus. Ça fait en sorte que je comprends qu'il y a des gens qui ont trouvé ça un peu complotiste. Ouais. Parce qu'on parlait pas tant du sida. On l'a nommé parce qu'il était atteint de ça. On a vu les effets que ça fait. On a vu les piqûres qui se donnaient tout le temps. Mais ouais, c'est ça.
C'est vrai. C'est vrai, mais ça fait en sorte que... Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Mais c'est un peu ça justement qui fait que le film est divertissant. Puis qu'on n'est pas dans un film pseudo-documentaire avec vraiment des faits puis qui a pour but de vulgariser ou d'instruire, d'éduquer sur ces sujets-là. Ouais. Ça le fait un peu par la bande. Mais dans le fond, comme tu dis, c'est vraiment un film sur un redneck misogyne.
C'est ça. Qui change de mentalité parce qu'il est
malade. C'est ça le pitch du film, dans le fond.
Ouais.
C'est ça qui fait que c'est bon.
Ouais. Puis c'est biobique aussi, dans le sens que c'est une histoire vraie. C'est, c'est une histoire qui a été vécue par une vraie personne. Tu sais, c'est pas, ça n'a pas été inventé par Jean-Marc Vallée. Fait que, tu sais, quand les gens disent « Ah, peut-être qu'il y a des trucs de complot, puis tout, comme le gars qui a lu le scénario, ben écoute, c'est pas Jean-Marc. Dans son Jean-Marc, il a vu ça, puis il a entendu cette histoire-là, puis il a fait « Je vais la raconter dans mon œil à moi. »
Puis tu sais, le script, comme je disais, il a été écrit... Il a été écrit, puis pendant 20 ans, il a essayé de se faire produire, puis personne ne le prenait. Finalement, il a été rejeté plus qu'une centaine de fois. Finalement, c'est Jean-Marc qui le fait. Puis par rapport au fait que c'est biobique, que c'est tiré d'une histoire vraie, le personnage de Rayon puis de la médecin, ça, c'est fictif à 100%. Ces deux personnes-là n'existent pas. Ron Woodford, le film est autour de lui, mais les deux autres, non. C'est vraiment ajouté à l'histoire. À quel point c'est un film, tu sais, oui, c'est inspiré de son histoire, mais tu sais, c'est romancé, là.
Ouais. Est-ce que Mathieu a gagné un Oscar? Oui, hein?
Oui, il a gagné un Oscar.
OK, c'est ça.
Puis ça m'amène à vouloir parler de son speech d'Oscar. Je sais pas si tu l'as écouté.
Non, okay. Raconte-moi.
Moi, je suis un fan des speeches d'artistes, là, surtout d'Oscar, parce que c'est comme... c'est un des prix les plus prestigieux. Puis quand t'as un artiste comme Mathieu McConaughey qui en gagne un, tu sais que... Ça fait depuis le début de sa carrière qu'il y pense.
Ça
a fait la même chose avec Leonardo DiCaprio.
Surtout Mathieu.
Puis ce speech-là, c'est clairement mon préféré. C'est le genre de speech que j'écoute peut-être chaque année. Là,
mais voyons.
Ah ouais, puis je sais pas si t'en écoutes un peu des fois des speeches.
J'aime beaucoup Ricky Gervais. Là. Lui, il est drôle.
Il en a animé un Académie, justement. Là. Mais c'est ça, puis son speech, je peux pas le répéter. Là,
Mais en gros.
Il me manque 1000% de charisme.
incarne.
Non, mais tu sais, il arrive, puis il explique que genre, la personne, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours besoin de genre look up tout quelqu'un, puis d'être fier, puis comme présent, futur, passé. Puis il fait un speech quand même assez long, tu sais, sur genre, à quel point, dans le fond, son idole, c'est lui dans 10 ans. Mais ça va toujours être lui dans 10 ans, même si 10 ans plus tard, il est rendu là. Il est comme, non, il faut que je continue à chase mon idole. Puis jamais je vais l'atteindre, mon idole, parce que c'est moi dans 10 ans, tout le temps. Fait que c'est comme façon d'avoir confiance en lui, parce que tu sais que t'as les moyens de faire les choses, mais tu sais, lui, comment il dit, c'est super beau. Puis tu sais, il finit avec sa phrase « Alright, alright,
alright, alright, alright », avec son « Alright, alright, alright ».
Puis c'est sa phrase-là qui, pour l'anecdote, ceux qui ne savent pas, c'est une phrase que Mathieu dit vraiment souvent. Les trois « alright », mais il dit ça parce que c'est aussi sa première phrase à l'écran qu'il dit, ever.
C'est vrai?
C'est sa première ligne, ouais. Tu regardes sur YouTube, tu vois, il est jeune et je peux te surfer, là. Puis c'est la première affaire qu'il dit.
Puis je pense qu'il leur dit dans le Loup de Wall Street, là.
Je pense que oui, Ouais, il les ramène, c'est comme un running gag derrière avec lui, là.
All right.
Puis la première personne qu'il remercie dans son Oscar, c'est Jean-Marc Vallée.
Oh.
Il est là avec son accent anglo, là. Jean-Marc.
Jean-Marc, thanks for everything.
Ouais.
Ah, mais c'est vrai que... Mais Mathieu, il y a quelque chose dans cet être humain-là, là, qui est...
Ah, il est inspirant.
Il est tellement... Là, moi, je le trouve... Ben, c'est ça, je l'ai redit, mais c'est épique. Ce gars-là, il est comme... Il s'était pas présenté pour des élections américaines pour un comté. Ouais, c'est ça. Puis
je pense qu'il était là. Ouais. C'est-tu maire ou représentant de je sais plus quoi.
Mais je sais pas. Mais tu sais, comme. Tu sais, j'ai l'impression. Tu sais, on en parle en ce moment, tu sais, mais j'ai l'impression aussi que. Tu sais, il y a un peu de Matthew, tu sais, dans le rôle de Ron aussi, tu sais. Ce côté-là, un peu.
Un peu redneck.
Je vais. Ben, peut-être pas redneck. J'aurais peut-être pas jusqu'à dire qu'il est redneck, Matthew. Mais Matthew McGonaghy qu'on parle. Mais. J'irais peut-être à dire que quand il y a une quête, il va jusqu'au bout. Tu sais, dans le sens que quand Ron a décidé que ça me prenait des médicaments pour vivre, puis finalement, il a vécu 2 ans, je pense.
7 ans de plus.
7 ans?
Me semble.
Ah, peut-être.
Oh, oui, mais ça, c'est ça, à la fin, ils disent, là.
Oui, c'est ça, ils disent, ouais, 7 ans. Puis le médecin, il avait dit 30 jours, tu sais, ouais, avant qu'il meure, tu sais. Fait que t'as fait 7 ans, tu sais, c'est-tu à cause de ces médicaments un peu clandestins, je pense pas, mais...
Tu sais, l'effet placebo, je sais pas, le pouvoir de la tête, là, tu sais, à un certain point.
Ouais, sûrement, beaucoup de tête, un peu têtu, ce run.
Ouais.
Mais ouais, c'est ça, puis tu sais, Matthew, dans la vie de tous les jours, tu checkes son Insta, tu checkes ses affaires, tu checkes son Facebook, il est tout le temps le genou sur une bûche puis en train de raconter quelque chose hyper un peu genre une phrase à la Facebook là, you wake up every morning and you will die soon but not now. C'est des affaires que t'es comme peux-tu répéter
ça a l'air full profond, c'est full simple,
mais c'est sincère quand il dit, tu le vois, tu sais, on le croit, mais si je sais pas, moi des fois j'étais comme je pense que c'est le rôle qui m'a fait le plus oublier Matthew McGonaghy, c'est Ron.
Ouais.
C'est sûr, c'est sa transformation et tout. Mais dans tous ses autres films, j'étais comme, ah, ben, c'est Matthew McGonaghy là, qui joue Matthew McGonaghy.
Cette épique-là.
Ouais.
Mais il y en a. Moi, c'est personnellement, c'est un de mes acteurs préférés. Là,
Côté
pour les films qu'il a fait, mais c'est sa personnalité, je trouve qu'il est vraiment positif.
Ouais.
J'ai l'impression qu'il amène du positif autour de lui.
Ouais.
Ces gars-là, il y a même une certaine carrière politique. Ça montre à quel point qu'il peut être un peu investi. Puis, tu sais, son livre, je sais pas si t'as lu son livre.
Non, tu l'as-tu lu, toi?
Je l'ai pas lu, mais...
je pensais que t'allais me dire, oui, je l'ai lu, je commence le deuxième.
Je l'ai pas lu, mais c'est mon prochain livre, parce que là, j'étais en train de finir le livre de Will Smith, puis après ça, c'est...
Ça,
c'est Matthew McGonaghy. Mais moi, je dis les livres, mais c'est en audiobook, là. Je trouve que c'est le fun, surtout quand c'est un livre d'acteur.
C'est-tu lui qui le lit?
Ouais.
Oh my God.
Même chose pour Will Smith, tu sais, je trouve que c'est tellement plus le fun. Si t'es un acteur, il écrit un livre, c'est le fun qu'il te le lise.
Ouais.
Fini à job, est-ce que...
Le livre à Matthew, c'est genre, c'est combien de temps ça dure?
Ça s'appelle Green Light. Je me souviens plus combien de temps ça dure, mais c'est lui qui, c'est comme une réflexion, tu sais, sur toute sa vie, ça, puis il donne des conseils. Puis Green Light, dans le fond, le pitch du livre, c'est vraiment de comme, lui, il s'est rendu compte dans la vie que il faut vraiment, tu sais, travailler dur et tout, mais il faut savoir voir les green lights dans la vie, puis les prendre quand ils sont là, tu sais. Parce que des fois, la vie va te mettre des lumières vertes, puis là, c'est le temps de peser sur le gaz, puis d'avancer. Puis des fois, t'as des lumières rouges, puis tu peux en prendre 20 000 des lumières rouges, quand t'as ta lumière verte, pèse, tu sais. Fait que c'est comme ça, sa mentalité, c'est comme, t'sais, des fois, c'est pas toujours ton moment, mais quand c'est ton moment, take it.
T'sais. OK.
En tout cas, ça, c'est le pitch du livre, mais bon, j'ai pas lu le livre, peut-être que j'en referai un review.
Puis le livre, ça commence-tu genre, « When I was young, my father told me, I'm a good guy, but not...
Tu l'as lu?
Non, non.
Non, mais ouais. Mais c'est vrai qu'il est de même. Puis sur ses réseaux, justement, je disais tantôt que j'aimais ses réseaux. C'est vraiment ça. Il est assis là avec ses lunettes de soleil et son chapeau. Quand il y en a un, puis il donne une leçon de vie.
Ah ouais, oui, c'est ça, une leçon de vie. Mais faudrait se promettre quelque chose, Phil. Un jour, faudrait lui serrer la main. Juste lui serrer la main. T'imagines, je pourrais mourir en paix après ça. Là, serait... Hi Matthew, on se le promet.
Faut se rendre là.
Faut serrer la main à Matthew McGonaghy. Je pense qu'après ça, tu peux mourir en paix.
C'est une petite belle objectif sur une bucket.
Ouais.
À cette heure, faut prendre la lumière verte quand il.
Ouais.
Fait quand tu vois un vol à 400$ pour Los Angeles, go for it, man.
Go for it. Matthew, I'm coming home. All in
I grab my horse and my boots and I'm coming home, Matthew.
Oh my God, mais
c'est Los Angeles, mais c'est Texas. Tous les acteurs américains sont à Los Angeles.
On va aller le voir dans son comté. Mais ouais, non, c'est quelque chose, notre Matthew. Puis on parle pas des autres acteurs, mais je pense que les autres acteurs laissent pas leur place non plus. Puis
On peut parler de Jared Leto. Lui, ça faisait 5 ans qu'il avait pas eu de rôle.
Ça faisait 5 ans.
Mais lui, il a une carrière musicale aussi. Je sais pas si ça avait ça. Chanteur d'un groupe.
Oui. Je savais pas que c'était sérieux.
Je tu sérieux, je sais pas. Mais oui, tu sais, la musique, là, tu sais. Puis je sais qu'il y a du monde, je disais des commentaires ça, puis le monde était comme, ah, moi, je connaissais Jared pour sa musique.
Ah ouais?
Ah ouais, il y a du monde qui connaît Jared pour sa musique.
Nice.
Mais ouais, ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas de rôle, puis il est revenu au cinéma avec ça.
OK.
Puis honnêtement, il a gagné un Oscar pour ça.
OK.
Tu sais, dans le fond, littéralement, un Oscar pour son rôle. Il l'a vraiment bien incarné. Moi, honnêtement, dans ma tête, c'était une femme, là. Tu sais, il y a vraiment. C'était une femme dans son rôle-là. Il a joué.
Ouais.
Puis même que pour son rôle, il quittait jamais le rôle dans le tournage. Quelques mois, le tournage, là, il n'a pas quitté le rôle.
Il était à Acting Studio.
Ouais, il allait. Il allait à l'épicerie, là. Hein, il allait à l'épicerie comme ça, puis il s'est guisé, il se faisait regarder croche et tout. Mais,
ah ouais. Hein. Mais c'est Daniel DeLouis, je sais pas si tu connais comme acteur. Il fait ça, mais en fait, lui, il est reconnu pour faire ça. Là. Tu sais, c'est où il décroche jamais, là, la méthode acting qu'on appelle, là, qui est quand même assez plus populaire aux États-Unis, mais qui ici au Québec, ça sert à rien. Je veux
ça
dire,
dépend de quel rôle tu joues.
C'est, oui, surtout. Mais même Daniel DeLouis, n'importe quel rôle, exemple, s'il faut qu'il s'enferme dans un placard pendant 3 mois, malheureux pour sa blonde, là. Mais c'est il va le faire. Il va le faire pour le bien du rôle, pour le bien de tu sais, fait que je savais pas que Jared Leto il avait fait ça.
Ouais, il a fait ça pour ce rôle-là.
Ok, qui décrochait jamais. Hey, ça doit être space. Hein.
Hey, puis il disait que justement, il s'était préparé pour le rôle, ça. Puis en gros, il était comme, je me reconnais plus moi-même. Là. Comment que je pense, comment que je parle. Ouais. C'est devenu moi.
T'imagines, la dernière journée de tournage arrive. Le lendemain, là.
Tu fais quoi, là?
Le petit cafard. Tu vas-tu te prendre un café ou qu'est-ce que tu fais, là? Tu sais, ça part pas comme ça quand t'as affecté ta posture, ton corps, ta tête. À un personnage qui est complètement à l'envers de ce que t'es, comment la dernière journée de tournage se passe? Ça doit être weird. Là. Ok, bye, tout le monde s'en va chez eux, puis lui se retourne dans son salon, puis il est comme, man, j'ai le goût de me mettre des talons ou encore.
J'étais belle, c'est mes cheveux longs.
J'étais une belle princesse.
mais clairement qu'il devait avoir un genre de postpartum où ça prend du temps pour redevenir, se réapproprier sa personne, c'est sûr.
Clairement, mais toi, comment tu réagis? Toi, quand tu vois, exemple, des transformations physiques comme ça dans le jeu, est-ce que ça, t'es capable d'en faire fi ou ben t'embarques dans le jeu avec eux? Parce que eux, dans le fond, ce qu'ils font profondément puis viscéralement, c'est jouer. Ouais. Jouer à son... Oh. Tu sais, comme quand on dit le jeu d'un acteur, tu sais, c'est pas... Des fois, ça peut être très en surface, on y va bien simple. Mais là, ces acteurs-là, ils vont comme au plus profond de leur être, tu sais.
Ouais.
Ils vont chercher ça dans les tripes, puis ils se transforment ces tripes. Tu sais,
c'est fou là, ce qu'ils offrent. C'est une performance, il n'y a pas de meilleur mot. Là.
Ouais.
Ils se livrent à nous.
Ouais.
Ils s'ouvrent les tripes.
Ouais.
Puis ils vivent des choses. Puis ben, moi, comment je réagis à ça? Ben, moi, des films, j'en mange. Là. Puis des performances d'acteurs, j'en mange aussi. Je trouve ça terriblement le fun.
Mais justement, est-ce que tu vois la performance ou tu vois l'œuvre avant tout?
C'est une bonne question. J'aurais le goût de dire que ça dépend ça dépend des fois.
Ouais.
Parce que je pense que quand c'est bien fait, dans le meilleur des mondes, tu vois l'œuvre. Tu vois pas la performance derrière, tu vis la performance.
Ouais.
Parce que c'est ça l'objectif de l'acteur. Puis moi, c'est ça que j'ai vécu avec Matthew. J'étais comme, moi, c'était pas Matthew, c'était Ron. T'sais. Puis c'était fou, puis j'ai tellement été bercé. Puis tu sais, le film, je l'ai écouté 2 fois. Une fois, ça fait quand même longtemps, puis je l'ai réécouté 2e fois. Tu sais, là, tu sais, oui, en analysant un peu plus, tu sais, je vois, tu sais, la performance, je suis comme, il est tellement talentueux, c'est vraiment, je vois, tu sais, le travail que ça prend, puis le talent que ça a pris. Puis ça, je l'apprécie aussi. Je pense que, dans le fond, ça permet de doublement apprécier l'œuvre.
C'est vrai. Non,
t'as
raison.
Parce que t'apprécies l'œuvre, après ça, t'apprécies le travail.
Ouais. Ouais.
Fait que c'est le fun, tu sais.
Ouais.
Puis un bel exemple, un triste exemple de ça, ça serait Heath Ledger.
Ah, ouais. C'est vrai.
Vraiment, tu sais, Heath Ledger qui a joué le Joker dans The Dark Knight de Christopher Nolan, puis qui est décédé parce que justement il faisait du method acting. Je sais pas à quel point il quittait son personnage, mais c'était assez intense, la drogue là-dedans. Puis il s'enfermait là, pendant des heures, voire peut-être même des jours dans une pièce noire, complètement sombre, pas de fenêtre, pour se mettre dans ce personnage-là. Puis finalement, il est mort d'une overdose, mais clairement lié à son rôle. Là, fait que ça en soi, quand j'écoute ce film-là, The Dark Knight, qui est un de mes films préférés, je pense que je vois pas l'effort, je vois juste l'œuvre. Ça, je pense que c'est l'apogée. Je pense que pas une fois j'ai vu le travail, parce que le travail était tellement finalement une fatalité, là, ce travail-là finalement qu'il a fait. Mais avec la discussion qu'on a, je me rends compte que je pense que j'ai jamais vraiment vu le travail, j'ai toujours juste vu l'œuvre.
OK. Pis
c'est pourquoi je trouve que c'est. Il a gagné un Oscar pour ça. C'est fou, tu sais.
À quel point tu veux mourir pour ton art aussi, à quel point. ces gens-là sont prêts à tout faire pour le bien de l'œuvre. C'est remarquable, puis c'est hyper touchant, je trouve, parce que ces gars-là sont comme, ben, OK, je vais me transformer parce qu'il y a des millions de personnes qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, tu sais. Puis ces personnes-là, c'est pas non plus les personnes qu'on côtoie le plus dans la société, tu sais. Fait qu'on s'en va leur parler à eux à travers à travers un film. Puis je trouve que des fois, t'es comme ça sert à ça aussi, faire des films.
Vraiment. C'est une façon de toucher. Ouais, c'est une façon de toucher les gens, là.
Ouais.
Vraiment. Puis, ouais, tu sais, puis Heath Ledger, tu sais, c'est fou, tu sais. Il avait beaucoup de liberté dans son rôle aussi, tu sais. Christopher Nolan,
il
avait beaucoup laissé faire ces choses.
Ouais.
Tu sais, dans le film, il y a une scène où il s'est filmé avec une Envy Cam, là.
Ouais.
Puis c'est, honnêtement, cette scène-là est effrayante, là. Il se fait comme, il torture un gars, quelqu'un qui s'était comme déguisé en Batman, là, puis il torture. Puis c'est tellement violent, là, petit genre pur. Mais tu sais, ça, il a tourné lui-même tout seul, avec le gars, là.
T'as le goût, là.
Puis Christopher Nolan, quand il a vu ces images-là la première fois, il était comme, on pourra pas tout montrer. Puis il était comme, c'est hard, là. C'est dark.
C'est-tu lui qui s'était comme enfermé dans une chambre d'hôtel, Heath Ledger, puis pendant plusieurs temps pour trouver son. Ah oh, non, ouais, ça, c'est. Non, ça, c'est, voyons. Phoenix, voyons. Joaquin Phoenix, qui s'était enfermé quelques jours dans une chambre d'hôtel parce qu'il voulait trouver le rire du Joker, la posture du Joker, puis ça en a un autre, Joaquin Phoenix, là, qui...
Mais ça, tu vois, je pense que c'est quelque chose qui est récurrent dans le rôle des Jokers, parce que je sais qu'Heath Ledger a fait ça aussi.
Ouais, mais...
Il en voyait, il se filmait, il essayait plein de rires, il essayait de trouver, là, tu sais, où ce qu'il voulait.
C'est ça, OK, mais les rires sont différents quand même des Joker à Joker, tu sais, puis... En tout cas, moi, lui qui a eu le plus d'impact, c'est, je pense, c'est Joaquin Phoenix, là, dans Ben, c'est son rire, si on parle. Si t'avais à choisir le rire du Joker, c'est lequel? Moi, ça serait Joaquin Phoenix, là, parce que. En tout cas...
Moi, c'est concernant le rire, je pense qu'il y avait vraiment un rire plus. Rien, comme.
C'était sec, Joa, tu sais, je sais pas. Il y avait comme. Ça arrêtait sec, là, tu sais. C'est...
Oui, c'est vrai. Comme un certain malaise.
Puis il devenait hyper sérieux après, tu sais.
Ouais. Mais peut-être qu'à parler de Joker, Jared Leto aussi a joué un Joker.
Oui, c'est vrai.
Puis ça a été son rôle directement après. Dallas Buyers Club.
Ouais.
Puis ça, justement, ça a fait un point commun avec Heath Ledger. En fait, il a joué un rôle LGBT. Puis Heath Ledger a fait la même chose avec Brokeback Mountain, qui jouait un homosexuel. Puis après ce rôle-là, les deux sont allés jouer le Joker.
Ouais. C'est tellement vrai. Puis
c'est des rôles intenses, là.
Ouais. Je trouve tellement qu'en tout cas, Jared Leto, moi, il est sous-estimé du milieu hollywoodien, là.
Vraiment.
Je comprends pas pourquoi ce gars-là, il n'est pas la tête d'affiche. Tu sais, il l'a été quelquefois, mais on parle très peu de Jared Leto, tu sais. C'est pas un...
Il a été la tête d'affiche de Morbius, un film de
Requiem for a Dream aussi, dans ses débuts aussi.
Mais tu sais, Suicide Squad, il a joué le Joker là-dedans. Moi, pour vrai, j'ai adoré ce Joker. Il était vraiment un Joker psychopathe, le Joker. Vraiment un Joker mafio.
Ouais.
C'était vraiment un mafioso, là, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça le fun, ce genre de Joker-là. Puis je sais que Jared Leto était vraiment déçu de Suicide Squad parce qu'il y a plein de bouts qui n'ont pas été mis. Parce que, tu sais, il y a un rôle moins que secondaire là, dans ce film-là. Tu sais, on le voit vraiment pas beaucoup.
Ouais.
Puis en soi, ça, je trouve ça quand même cool que, tu sais, le film, on le voit pas tant, parce qu'il a fait ses affaires à faire. Mais, ouais, ça fait, il y a beaucoup de scènes qui ont tourné que lui aimait beaucoup qui n'ont pas été là. T'sais.
Ouais.
C'est dommage.
En tout cas, c'est tous ces acteurs que j'envie tellement, my God.
Sinon, tu fais tournage, tu sais, on disait que le script a été refusé plus d'une centaine de fois. Brad Pitt a déjà, avec Mark Forster pour réalisateur, ils ont essayé de faire ce film-là à un certain point.
T'es pas sérieux?
Ouais. Je sais pas en quelle année, je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé plus de détails là-dessus, mais ils ont lu ce script-là puis ils ont essayé de le faire, puis ça s'est pas fait.
Puis, ben voyons donc. Okay, puis
un autre acteur aussi, qui est Ryan Gosling.
Ryan Gosling.
Le réalisateur Woody Harrelson qui voulait faire ça. Qui ont mis la main sur ce script-là.
Mais là, c'est. Tu sais, juste en ce que tu dis là en ce moment, j'ai vraiment l'impression que le film avec Jean-Marc et Mathieu m'ont fait un effet parce que je le vois avec personne d'autre, ce film-là. Tu me nommes ces gars-là, puis je suis comme, what the fuck, Ryan Gosling, il sort un film avec Barbie, là, je suis comme ça, pour moi, ça l'aurait pas marché. Mais peut-être en même temps, tu sais, il est peut-être tanné de jouer le beau gars, peut-être qu'il aurait fait une performance aussi comme...
C'est vraiment l'occasion.
Mais
tu sais, je pense que ces grands noms-là d'Hollywood, à un certain point, ils cherchent ce genre de rôle-là. Puis c'est pas nécessairement par rapport au film, au scénario, mais ils cherchent le rôle qui va les pousser.
Oui,
t'sais.
C'est ça, c'est ça. Mais, ah ouais, OK. Y en a-tu d'autres?
Non, c'est les deux seuls c'est connus que j'ai vus.
Hey, t'es bon d'avoir trouvé ça, Mike.
Ah, j'ai lu. Mais ouais, puis un autre fait, man. Ils ont gagné le score pour le maquillage, OK? C'était quoi le budget qu'il y avait pour le maquillage?
20$.
C'est 250$.
Hein?
T'as dit.
Mais voyons,
c'est moins de 20$, là, ouais. Il y avait juste 250$ pour le maquillage. C'est sûr que tu s'entends, c'est pas un film avec...
250$? 250$ comment?
Pour l'équipement, là, pas pour les, le staff
okay.
et tout. Là.
Okay,
pour
okay,
le,
OK, OK, OK.
250$ de maquillage.
OK, OK.
Puis ils ont fait avec ça. Dans le fond, en soi, le maquillage, c'est, ils ont la peau sec et tout.
Et ah, puis Mathieu, il... Non, mais je veux dire, les piqûres, les...
Ah, man,
la grosse poc dans le front au début, tu sais, quand il se fait péter la gueule aussi.
Juste ça devrait être 1000$, là. Mais ouais, je sais pas comment ils ont fait, man, mais ils ont jonglé avec ça.
Ah non, ils ont fait ça avec des peanuts. Mais là, c'est là aussi qu'on se rend compte que ça prend pas des millions et des millions de dollars pour faire des œuvres qui restent puis qui restent gravées dans la mémoire pendant longtemps des gens. Tu sais, c'est...
Ouais.
C'est là, il a fait un chef-d'œuvre aussi, tu sais. Ben, c'est un chef-d'œuvre, tu sais. Je suis peut-être un peu fort, tu sais.
Ouais, je suis
peut-être un peu fort, mais en même temps... Rappelle-moi combien, avec combien on fait ça?
250$.
Non, mais je parle
de. Le budget total, 5 millions.
5 millions?
Ouais.
T'sais,
c'est assez.
5 millions.
C'est un petit budget de film hollywoodien. Là.
J'ai déjà vu des films à 50 millions, puis pas mal moins bon que ça. Là.
Ah ouais. Mais tu sais, si mettons, on s'enligne vers la conclusion, t'sais, moi, ça reste, c'est un excellent film.
Ouais.
C'est, il n'est pas dans mon top 25. T'sais.
Ton top 25?
De film, mettons. Il serait pas. C'est, selon moi, c'est pas un des meilleurs 25 films que j'ai vus.
Sort de ces films.
Non, mais tu sais, il serait dans ton top 25?
Je pense que oui.
Ah ouais?
Ouais. Je pense que, ouais, pour. J'ai coché oui à plusieurs cases.
Ok.
Ouais.
Ah, c'est sûr.
Ouais,
je peux comprendre. Moi, c'est peut-être. Bon, c'est,
non, mais je comprends aussi, là. Je comprends aussi. Je veux pas me battre.
Je me sens jugé.
Non, je comprends.
Ouais, je pense que c'est ça. Mais non, honnêtement, excellent film. Je suis content d'avoir écouté ça.
Ouais.
Je suis content d'avoir parlé aussi sur le podcast. C'est le fun.
Ouais.
Mettre un peu la lumière sur un grand Québécois comme Jean-Marc. Feu, repose en paix ton âme. Merci. Ouais, non,
c'est
une grosse, grande perte. Puis, si t'as-tu d'autres choses à dire sur le film?
Non, à part aller écouter ça, même s'il n'est pas dans le top 25 à Phil, il est dans le mien. Non, mais sérieusement, aller écouter ça, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de mettre ça dans votre culture cinématographique. Ouais. C'est...
Décidément. Puis surtout, aller écouter le speech de Mathieu aux Oscars. T'as juste écrit Mathieu McConaughey Oscar sur YouTube, tu le trouves.
Il était habillé en blanc. Hein?
Ouais.
Ouais, c'est ça, avec un code blanc. Là. Oui. Ouais. Okay, ouais.
Ah ouais, excellent speech, un des meilleurs selon moi. Puis je peux vous dire que si vous avez aimé ça, la semaine prochaine sort un épisode sur un autre film de Jean-Marc Vallée, Crazy, un film complètement québécois cette fois-là.
Ouais.
Puis on en parle encore une fois avec Kevin.
Yes.
Puis on va explorer ça, c'est sûr. Puis si vous ne l'avez pas écouté encore, ce film-là, écoutez-le, ça vaut la peine. Ça, c'est un des films qui se trouve clairement dans mon top 25.
Ouais.
Puis non, excellent film avec un budget encore plus petit. Ou environ similaire le budget, gars, je vous tease là, des infos la semaine prochaine. Mais je peux vous dire aussi qu'on va découvrir un peu le profil cinématographique de Kevin dans ce prochain épisode.
Okay,
j'ai préparé une couple de questions pour toi.
Qui est juste stressé.
Fait qu'on va voir ça.
Okay.
Dans le fond, je te demande de répondre en 2000 mots.
Non, c'est pas vrai. En livre audio.
C'est une question rapide, mais tu sais, pour connaître un peu plus.
Ben oui, qui je suis, c'est qui cet homme-là derrière le micro
Fait que merci de votre écoute, merci d'avoir passé ce petit moment-là avec nous.
Ouais.
Je vous souhaite bon temps des fêtes.
Oui.
Cheers à toi, Kevin.
Merci.
Et,
pour la
si vous voulez encourager le projet, vous savez quoi faire. Je pense que je le répète même pas à ce point-là.
Ouais.
Fait que je vous dis ciao et à la semaine prochaine.
Et bon cinéma.